Retrouver une machine qui n'a pas existé à plus de 10 exemplaires, car elle n'est restée qu'à l'état de prototype légendaire, lui donner corps, lui donner vie, et même programmer dessus. L'histoire est absolument exceptionnelle, et il nous fallait quelqu'un qui soit un passionné sur une certaine gamme de machines, qui la connaisse vraiment par cœur, non seulement dans son histoire vidéoludique, mais surtout dans son électronique, pour tomber sur cette histoire absolument extraordinaire et dingue auquel maintenant il fait partie. Nous recevons Fabrice Frances, enseignant-chercheur à l'ISAE Supaéro, restaurateur de Ça se fait plus prototype, développeur d'émulateurs Auric, spécialiste en performance des FDX, les réseaux embarqués d'avionique spécialisés temps réel, et amateur de coucou qui crache du pixel qui tâche. CPU carré petit utile. Fabrice, vous aviez l'amour des Auric à l'époque où c'est un ça se fait plus qui vous a touché bien après les années 80.
Non, c'est bien un ordinateur sur lequel j'ai fait pas tout à fait mes premières armes, mais vraiment un des premiers sur lequel j'ai beaucoup programmé et je suis resté fondamentalement très attaché à cette machine. Oui.
Ouais. C'est quel a été par exemple l'un des souvenirs qui vous a marqué? Moment où vous vous êtes dit oui, il y a quelque chose qui se passe avec cette machine.
Ah ben, dès qu'on commence à créer des programmes dessus, peut-être encore plus pour les garçons que pour les filles, ce sentiment de création qui nous est refusé par la nature, ici prend corps et puis c'est notre bébé quoi. Voilà, on fait un programme, ça devient son bébé.
Plus les garçons que les filles, attention, ça peut poser des problèmes. Et je n'adhère pas totalement là-dessus, mais je reste quand même un garçon. On peut faire rapidement une histoire donc de la gamme Auric. C'est un ordinateur anglais, donc au départ il y a eu l'Auric 1, il y a eu d'autres bécanes.
Oui, alors avant en fait, donc la société s'appelait Tangerine. Donc c'est le mandarine, je crois,
oui,
anglais.
À mon avis, c'était une référence à Tangerine Dreams, peut-être.
C'est l'époque où toutes les compagnies d'informatique s'appelaient avec des noms de fruits. Hein.
On se demande pourquoi.
Et donc ils avaient déjà un ordinateur qui était le Microtan 65. Mm-hmm. Voilà. Et donc le concepteur de cette machine avait exploité des particularités du 6502 hein, de son horloge. Pour pouvoir bâtir un graphique de manière assez simple dessus. Et il a ensuite développé, pareil, ce qu'on appelle une Uncommitted Logic Array, donc de la logique programmable, hein, pour l'Auric 1. Et ça a permis d'intégrer sur une machine assez bas coût, hein, des graphismes de bonne qualité. Et c'est pour ça que c'est une machine qui a particulièrement bien marché en France.
D'accord. Donc, c'est une machine anglaise qui a marché en France. Elle a marché aussi en Angleterre ou
alors
dans d'autres pays peut-être.
Elle a bien marché au début en Angleterre. Ouais. Hein, mais bon, il a fallu faire face quand même à une concurrence. C'était quand même l'époque du Spectrum, par exemple.
Hein. Ah, les ZX80.
Oui, mais surtout le Spectrum ensuite. Hein, pour les aspects graphisme, on ne jurait que par les capacités graphiques presque à l'époque. Hein. Et donc, elle a mieux marché finalement en France qu'en Angleterre, oui.
Et en fait, la boîte a été rachetée par des capitaux français.
Alors, dès que les difficultés se sont faites, ont eu jour donc en Angleterre, effectivement, comme ça avait bien marché en France, il y a des sociétés qui ont voulu reprendre la boîte Auric, oui. Oui. Ils étaient deux sur le coup, donc ASN Diffusion, hein, et c'est pas eux qui l'ont eu. Hein, et puis on a eu Eureka, bien sûr, qui a repris, donc, qui a repris ça en France, oui.
Après l'Auric 1, il y a eu d'autres bécanes, je crois que...
Alors oui, alors ça c'était avant que la boîte anglaise coule. Hein, donc l'Auric 1 était une machine avec un clavier un petit peu comme les touches des calculettes HP. Hein.
Bon, c'est toutes petites touches.
Des petites touches, voilà.
Il ne fallait pas être un gamin de plus de 12 ans quoi, pour arriver à taper dessus.
Ce n'est pas un clavier très professionnel. Et donc, dans la foulée, presque un an après, disons, ils ont sorti l'Atmos. C'était exactement en fait, la même carte mère, rien de différent, mais un clavier Tadpole. Donc un clavier mécanique de bien meilleure facture.
C'était la seule différence entre les deux.
Alors, ils ont changé la ROM et le clavier.
Donc c'est, d'accord.
C'est la seule chose.
Donc ça veut dire que la Logitech pouvait fonctionner ou la ROM était très différente.
Il y avait une compatibilité presque... Alors, pas parfaite. Hein. Bien sûr, ils ont voulu corriger des bugs. Hein. Le BASIC a été un petit peu étendu, très peu. L'idée, c'était vraiment de corriger les bugs de l'Oricain, qui quand même étaient assez nombreux.
On peut en parler, la prescription. Oui. Et ensuite, il y a eu l'Oric Telestrat, qui était l'idée d'en faire un serveur télématique.
Alors, plus exactement, donc, la machine anglaise qui devait arriver, c'était l'Oric Stratos. Hein, donc, on voit Atmos, Stratos, hein, on est dans les atmosphères, là, stratosphère.
Et plus haut, le ciel est la limite, mais quand même. Il y a plus beaucoup de place pour les noms.
Voilà, mais donc, ils l'ont annoncé sur un salon, donc c'était en Allemagne. Et deux jours après, la boîte donc, a été mise en liquidation.
Ah mince.
Alors, c'est pour ça qu'il est né donc, côté français. C'est exactement, en fait, quand on regarde la carte mère, hein, il y a marqué Stratos dessus. Et le boîtier aussi avait été récupéré, il était déjà prévu. Et on a juste un petit sticker Telestrat marqué dessus, alors que c'est un Stratos, en fait.
D'accord. On m'en avait prêté une époque, j'ai pas pensé à décoller le truc. D'ailleurs, c'était un lecteur disquette 3 pouces, même système comme Strat, si je me souviens bien.
Oui. Oui, donc pas le 3 pouces et demi, du 3 pouces.
Donc les disquettes étaient beaucoup plus chères, mais du coup la mécanique dans le lecteur était plus robuste.
Plus robuste, je ne sais pas, pas forcément. En tout cas, moins courante. Et...
Oui, moins facile à trouver, ouais. C'était un peu la croix à la bannière. Comment on tombe sur un tel prototype, tel que l'Oric Phoenix?
Alors là, effectivement, on pensait que c'était une chimère parce que personne n'en avait jamais entendu parler. Mais donc j'ai eu la surprise un jour, c'était en été 2006. On est venu me chercher, en fait. On m'a donc envoyé un petit mail pour me dire « Fabrice, on a fait une découverte fantastique en récupérant le vieux stock de Steve Hobbs en Angleterre. 40 cartons de matériel Oric dans son atelier et dedans donc 5 cartes mères avec marqué Phoenix dessus.
La renaissance de l'oiseau, c'est hallucinant. Parce que vous-même, vous avez gardé cette passion sur cette bécane puisque vous avez fait en fait un émulateur à la fin des années 90.
Oui, en 94 je crois ou en 93 et puis quelque chose que j'ai maintenu quand même pendant pas mal d'années. Et qui tourne toujours aujourd'hui. Hein. Et par contre, donc, c'est une machine qui est complètement différente. Hein. Donc, c'est une machine qui est complètement à part dans la gamme Oric, puisque tous les autres Oric étaient basés sur un 6502. Et là, on est sur du Z80 avec un système d'exploitation CPM. Donc, vraiment, une tentative pour Oric de revenir sur un marché peut-être plus... professionnel, peut-être.
Monter un petit peu en gamme, quoi.
Monter en gamme, peut-être, un petit peu. Voilà, mais comme je disais, la boîte s'était arrêtée en 84.
Parce que CPM, il faut le dire, c'était un système d'exploitation, ce qui n'était absolument pas courant pour les ordinateurs familiaux à l'époque. Où on démarrait, on tombait direct sur un BASIC. Là, on avait un vrai système d'exploitation. D'ailleurs, le CPM a plus ou moins inspiré MS-DOS. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, il n'y avait pas la gestion des répertoires, mais on pouvait lancer des programmes. Il y avait une Logitech qui était disponible pour plusieurs ordinateurs et qui marchait très bien d'une bécane à l'autre.
C'est ça, c'est ce qui faisait la force de ce système d'exploitation, c'est que des constructeurs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, bon, qui partageaient quand même un processeur de base qui est le 8080 ou un processeur avec une compatibilité ascendante tel que le Z80, vous pouvez faire tourner assez facilement toute une Logitech de programme. Oui.
Donc, Vous tombez sur ce prototype. D'habitude, on fait quoi pour retrouver des ORIX ? Vous passiez tous vos week-ends dans les communes qui ont eu certaines entreprises sur leurs locaux ou des alertes sur le bon coin, Ugly les bons tuyaux, votre foule de rabatteurs, je sais pas.
Ben non, en fait, moi je suis pas du tout collectionneur. Je suis un petit peu devenu collectionneur ORIX malgré moi. Pratiquement tous les ORIX que j'ai, on me les a donnés. Et à chaque fois, c'est les gens qui viennent me voir et qui m'ont fait des dons. Donc, j'avais cet ORIX 1, mais ensuite, l'ORIX Atmos, avec son lecteur de disquette, on me l'a donné. Le Telestrat, on me l'a donné. Une carte Mastratos aussi. Voilà, à chaque fois, on est venu me chercher. Et...
Ah, c'est vous qui faites l'émulateur, donc on vous donne les machines que vous émulez. C'est amusant. Et du coup, vous faites comment ? Vous les stockez dans un coin ?
Bon, j'essaye de ne pas trop en garder, mais... Alors... Donc, comme je bricole pas mal, souvent je fais des transformations, je fais des choses avec, oui.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Fabrice Frances, qui est là en tant que restaurateur de Ça se fait plus, oui, mais des Ça se fait plus prototypes. Quelque chose absolument improbable. Donc, on parlait de cette machine légendaire, et bien trouvée hein, quand même pour son nom, le Phénix. Quelles étaient les caractéristiques lors de sa découverte ?
Ah ben, les caractéristiques, c'est celles, en gros, d'une machine CPM classique. Un petit peu, quand même, dans les dernières années. Et donc, le processeur, c'est un processeur Hitachi, un HD 6480, qui est une espèce de Z80 intégré dans un microcontrôleur. Hein, mm-hmm. Donc, il y a des périphériques qui sont intégrées. Ça permet encore plus d'intégrer, en fait, des choses sur la machine. Et puis, par contre, il y a une spécificité, c'est le chip graphique, donc, qui est celui du Minitel. Donc,
Ah oui. Ah oui. Ils ont quitte à être en France, on pouvait le récupérer facilement. Je croyais que c'était d'ailleurs des Américains qui fournissaient cette puce.
C'était une puce qui était fabriquée par Thomson F6, donc le F9345. Donc c'est vraiment une puce française, hein, quand même, à la base. C'est assez marrant, d'ailleurs, de voir le datasheet, parce que les noms des registres, tout ça, derrière l'anglais donc, du datasheet, on voit que ce sont donc des acronymes trouvés par des Français.
Ah oui, c'était pas des Anglais pratiquants. Donc c'est, si je relis, en fait, les notes que vous avez mis, 160 par 200 par 8 couleurs. Et donc les puces Minitel, ça faisait 40 colonnes.
160 par 120, ouais. Ou 125, hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve par exemple sur les Alice 32 ou les Alice 90.
Hein. C'était vraiment faible, en fait, point de vue résolution.
Alors,
Pour l'époque.
Oui, c'est un chip qu'on appelle un chip semi-graphique, en fait. Hein. Bon, et on le voit sur les Minitel, hein, les graphiques mosaïques, hein, typiquement, c'est ce qu'on peut faire avec ce genre de chip. Moi, je comprends qu'à l'époque, on commençait à avoir du mal à trouver des chips graphiques fabriqués par des fondeurs généraux comme Motorola. Motorola qui avait fait, par exemple, le 6845 qu'on trouvait dans un grand nombre de machines. Et il y a eu, à partir de cette époque, hein, les années 85-86, l'explosion, en fait, avec le PC, avec les machines donc plus 16-32 bits comme l'Atari, l'Amiga, de chips qui sont venus des fabricants de machines eux-mêmes. Et donc, pour un petit constructeur, c'était difficile de faire son propre chip graphique.
C'est un Minitel un petit peu étendu, puisqu'il pouvait aller en 80 colonnes. En fait, on est en quelle année exactement sur ce prototype ?
Donc là, on est en 85, quand ORIX... C'est
le moment où l'annonce de l'Atari ST et de l'Amiga. Donc,
ce qui est assez rigolo, c'est que le prototype, quand on a pu retrouver la ROM, parce qu'on ne l'avait pas au début, la ROM est datée de 86. Donc là, effectivement, on est sur une machine 8 bits qui se trouve à une époque incongrue par rapport à la compétition. Oui. Et elle n'avait aucune chance, en fait, de faire son trou, quoi.
Ouais. Quel était l'état de finition, en fait, quand vous... Là, vous disiez, il n'y avait pas l'arôme dessus, mais en fait, c'était juste une carte mère, il n'y avait pas de boîtier ni rien.
Ah oui, c'était juste une carte mère. En fait, c'est un lot de 5 cartes mères qui ont été retrouvées dans ce stock qu'avait Steve Hobbs de la société Opelco, en Angleterre, et qui était comme ça... presque aux intempéries, hein, puisque la carte que j'ai récupérée, qu'on m'a envoyée, commençait à être corrodée par endroits.
Ah mince ! Ah ouais ! Donc il a fallu la restaurer, arrêter au moins l'oxydation et...
Oui, alors une des causes, c'est aussi les batteries. Hein. Il y avait une petite batterie pour l'horloge temps réel. Donc dès que ça commence à couler, ces choses-là, c'est pas bon. Donc il y a quelques pistes qui étaient abîmées, mais heureusement, pas trop. Et donc, avec un petit strap derrière, en mettant une lime extérieure, en supprimant en fait toute la partie alimentation qui se trouvait là-dessus. Donc, j'ai pu faire démarrer la carte, oui.
D'accord. Donc, il y avait 5 cartes. Les 4 autres sont parties où ? Chez qui ?
Alors, les 4 autres, il y en a une qui est partie par la poste tout de suite vers la Norvège, vers un ami donc aussi qui fait des démos dans le monde RIC. Et seulement, apparemment, elle n'est jamais arrivée. Donc, elle est perdue. Et puis, il y en a 2 autres qui sont partis vers le club Europoric. Hein, et une qui était restée donc, chez Jonathan, donc, cet ami qui m'avait envoyé la carte. Oui.
Et du coup, donc, sur les 3 autres qui restent, elles aussi, ils ont pu les démarrer ou...
Non, ils ne les ont pas démarrées. Je crois que je suis le seul donc, à avoir refait une ROM à partir du dump qu'on m'avait envoyé.
Donc on a retrouvé en fait la ROM qui était sur disquette.
Ça c'est 2 ans après, on a retrouvé Peter Alford. Alors c'était pas facile parce que quelqu'un qui...
Alors on va aller un petit peu vite, donc j'ai sauté une question. C'est quand on a la carte mère, si on l'allumait qu'il n'y avait pas la ROM, qu'est-ce qui se passait ?
Ah ben sans la ROM, il n'y a rien qui se passe. Sans la ROM, il n'y a rien qui se passe, hein, puisque le processeur, il faut qu'il trouve les premières instructions sur la ROM. Donc j'avais commencé à développer ma propre ROM en fait pour faire des tests. Et ça m'a permis de faire un petit peu de reverse engineering sur la carte aussi, hein. Donc pour essayer de programmer les différents composants.
Parce que là, pour le coup, vous n'aviez pas l'adressage, vous ne saviez pas dans quelle mémoire taper pour accéder à telle puce.
Voilà, on n'a pas la carte mémoire. Alors ça, donc, on commence à trouver des indices en suivant les pistes sur la carte mère, les différents composants.
Oui, là, pour le coup, on suit vraiment les pistes physiques.
Oui. Tout à fait, oui.
C'est au premier sens du terme,
oui. Oui, bon. Oh, c'est une démarche qui est assez classique quand on veut émuler, par exemple, des machines d'arcade. Donc j'avais fait ça, par exemple, sur des machines... Gottlieb. Et donc on regarde les petits composants tels que les démultiplexeurs qui permettent de gérer les adresses, par exemple. Et puis on retrace donc une carte mémoire de la machine comme ça, oui.
D'accord. Les ROM, elles étaient sous quel format ? Vous les avez reçues en disquette ou en sortie papier ?
Ah ben là, c'est par mail. Hein. Peter Alford,
ah oui, donc c'était déjà au format qui était exploitable. Quoi.
Ah non, c'est qu'en fait, Peter Alford donc, était un des designers de cette machine. Donc on a retrouvé sa trace. Ça n'a pas été facile parce que une fois il était en Nouvelle-Zélande, après il a travaillé en Grèce. Avant donc il était en Slovénie, là où donc cette machine a été conçue. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a voyagé pas mal. Bon, il a eu aussi des problèmes familiaux, donc c'est sa femme qui avait les cartons où on a pu retrouver donc la ROM. Donc il a fait un dump de cette ROM en se disant ça marchera jamais parce que les EPROM avec les fenêtres à UV, au bout d'un certain temps, ça peut quand même s'effacer. Donc il a fait un dump de la ROM.
Donc on explique, la fenêtre UV, c'est pour donner une impulsion lumineuse pour vider la ROM, pour ensuite pouvoir réécrire. Quoi.
C'est ce qu'on appelle des EPROM, hein, qui s'effacent avec des UV. Donc c'est pour l'effacement de ces EPROM. On faisait ça avec donc des ultraviolets. Et après, par contre, de manière électrique, on est capable d'écrire l'EPROM. Et malheureusement, donc, au soleil, par exemple, au bout d'un certain temps, l'EPROM peut s'effacer. Donc heureusement, elle était conservée dans une cave, et donc à l'abri de la lumière. Et lorsqu'il a fait le dump, il y croyait pas trop, il m'a envoyé donc le dump. Et donc j'ai pu la programmer sur une nouvelle ROM, et ça a marché.
Vous allumez la carte mère, qu'est-ce qui se passe ?
Et donc là, ben, quand on l'allume, on voit donc sur l'écran apparaître une espèce de prompt, un petit peu, enfin de prompt, un message d'invite qui nous dit ben, appuyez sur une touche et mettez une disquette. Et insérer.
Ah, on n'y est pas encore.
Donc on n'y est pas encore parce qu'on n'a pas de clavier.
Ah oui, aussi, oui.
On n'a pas de clavier et puis on n'a pas de disquette non plus.
Le clavier, mais donc dans le montage que vous avez exposé lors de l'événement vieux micro de nos amis de Silicium, en fait, vous avez repris un vieil Auric pour le brancher dessus pour servir de clavier, mais le clavier c'était pas une prise DIN, c'était standard quand même à l'époque. Même l'Apple 1 avait une prise DIN standard. Ça aurait été utilisable ?
Ben non. Donc c'était pas quelque chose de standard. Donc là, le clavier, en faisant du reverse engineering de la carte, on pouvait découvrir qu'il attendait tout simplement une liaison série en niveau TTL, c'est-à-dire des niveaux 0,5 volts. Hein. Mmh. Et donc il suffisait. Le premier essai que j'ai fait, c'était avec un petit Arduino. Donc j'ai pu connecter comme ça un premier clavier avec un Arduino. Et puis ensuite, du coup, je me suis dit, tiens, puisque c'est un Auric, on va brancher un Auric dessus.
Quitte à avoir le stock qui vous est amené par les fans.
Ah, mais l'Auric n'a pas été abîmé, hein, donc c'est simplement logiciel. Mm-hmm. Voilà, donc c'est une routine simplement qui va lire le clavier sur l'Auric et transmettre les informations vers le Phoenix.
D'accord. Donc il y a quand même toute une procédure de démarrage qui est relativement compliquée. Du coup, comme ce n'est pas le même processeur que les anciens Auric, ça veut dire que l'ancienne Logitech ne passe pas.
Ah oui, complètement. Oui.
Mais il y a toute la Logitech CPM.
Ah oui.
Qui était quand même extrêmement fournie pour l'époque. Je crois même qu'il y avait, en 83, à l'époque, on considérait qu'il y avait plus de logiciels sur CPM que sur MS-DOS.
Ah ben oui, puisque c'était les débuts de MS-DOS, même si MS-DOS, évidemment, après a doublé CPM. Donc au début, les logiciels, effectivement, étaient sur CPM et on avait des logiciels assez professionnels, contrairement à la Logitech Auric, qui était plus une Logitech de jeu.
Donc là, il y avait vraiment une montée en gamme, effectivement, sur la clientèle et tout ça, quoi.
Oui,
des trucs de pro, quoi.
Des trucs de pro, des compilateurs, donc ça permet de programmer dans d'autres langages, c'est pas mal. Et puis, bon, tout ce qui est traitement de texte, évidemment. Il y avait des logiciels phares sous CPM, comme WordStar.
Comme l'un des premiers éditeurs de texte.
Voilà, traitement de texte, multiplan, choses comme ça.
Ouais, l'un des premiers tableurs, c'est des noms qui ne disent absolument rien. Et c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous avons comme invité Fabrice Frances, restaurateur de Ça se fait plus prototype. Enfin là, pour le coup, un petit peu à votre corps défendant, mais vous étiez bien content. Non, ne regardez pas trop les bécanes qui sont en hauteur. Un, ce sont des Solex, ce ne sont pas des ordinateurs. Et deux, tant qu'on n'y touche pas, ça ne tombe pas, puisque nous enregistrons à l'atelier TA. Est-ce que vous avez... Oui, pardon.
Je disais dans ma tête, en fait, mais c'est dans ma tête. C'est, chaque fois que tu dis restaurateur, j'ai l'impression qu'on est dans une émission culinaire, en fait.
Là, c'est plutôt des antiquaires, tu sais, comme quand tu vas chercher des pièces.
Mais l'informatique,
pour ton
c'est un peu
IBM
comme une recette de cuisine, quand même. Il faut choisir les bons composants, les assembler d'une certaine manière. Il y a tout un process à respecter.
Là, on est plus peut-être dans l'archéologie. Hein. Ouais.
Ou alors les vieilles recettes de cuisine ancestrales.
Enfin, l'archéologie où les personnes qui ont conçu ces bécanes sont encore vivants. Pour certaines, pour la plupart. Est-ce que. Comment ils ont pris votre projet d'essayer de restaurer cette machine, la faire démarrer et ensuite de l'étendre ?
Ils ne sont pas au courant, ils sont tous morts.
Non, ils sont vivants, j'ai vérifié.
Ah ben, je pense qu'ils étaient tous très heureux, oui. Oui, bah, souvent, les gens sont surpris. Surpris, oui.
Quand vous avez restauré cette machine, vous avez dit qu'il y avait un début de corrosion. Il y a eu d'autres pannes qui sont arrivées entre-temps que vous aviez dû tenter de réparer ?
Oui, mais en fait, la machine, au bout de 5 à 10 minutes, l'écran commençait à bouger. Et puis un petit peu après, donc il n'y avait plus du tout de synchronisation. En fait, il y avait un composant qui, sans doute, il y avait une erreur sur un composant, juste un petit condensateur qui n'avait pas la bonne valeur et qui faisait que la machine était instable.
Et que du coup, vous avez pu débugger, quoi, voilà. Physiquement.
Oui, en changeant le condensateur, en changeant la valeur du condensateur.
Il a fallu le trouver et tout le reste. Là, je suis impressionné. Encore plus. Quelles sont les limites, en fait, de la restauration quand on est face à un prototype? Quelles sont les limites? Les limites sont historiques, sont les possibilités qu'on pouvait faire à ces bécanes-là?
La crainte, évidemment, c'est que la machine ne soit pas complètement aboutie. On n'a aucune idée de savoir, au départ, si la machine est une machine complètement fonctionnelle ou si elle est pleine de bugs encore et en plein développement. Et voilà, donc là c'est la belle surprise, oui.
Parce qu'une des démos que vous avez faites notamment, c'est que vous avez rajouté un dispositif de sortie son par le port parallèle. En fait, c'est un bête convertisseur numérique analogique. Donc vous envoyez du signal sur le port parallèle, c'était converti en son. Mais là pour le coup, on est plus dans la prospective rétro-futuriste quelque part.
Oui et non. Je pense que les cartes Covox Speech Things, puisque c'est ce type de carte-là, c'est à peu près la date, c'est à peu près les années.
Oui. Disney faisait des jeux sur PC où justement ça leur servait aussi de dispositif anti-piratage, ces cartes sont là.
Ah oui, je ne savais pas.
Oui, ça utilisait le port parallèle pour faire les sorties son, sinon c'était au buzzer, c'était dégueulasse. Chanter les Reines des Neiges en bip bip par saut de fréquence, c'est pas rigolo, quoi. Est-ce que ça vous a titillé d'aller au-delà, donc vous avez construit un boîtier, mais de donner un boîtier avec un look, d'imaginer un design graphique, voire de lui concevoir un manuel?
Ah ben, c'est quelque chose qui va suivre, oui. Pour l'instant, j'ai un boîtier en bois. Qui est assez élégant, sobre, mais il faudrait faire des recherches pour savoir s'ils en étaient à ce niveau-là. Est-ce qu'ils avaient déjà un boîtier qui était prévu? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la boîte donc s'appelait Autotechna. Ils sont plus dans les voitures aujourd'hui que que dans les ordinateurs.
Ça peut les intéresser. Hein. Une carcasse d'ordi avec une belle peinture.
Donc on ne sait pas trop, oui, comment était prévue donc cette machine. Oui.
Est-ce que ça vaut le coup de l'émuler? C'est intéressant d'essayer de porter une émulation pour cette machine-là. Ou est-ce que finalement c'est encore trop frais, il y a encore trop d'incertitudes dessus?
Comme c'est une machine qui c'est une machine CPM, il y a déjà des émulateurs CPM et qui justement font abstraction des différences qu'il peut y avoir entre les différentes machines CPM. Et donc là, la partie graphique qui est vraiment très spécifique, si on veut l'émuler, ça a été fait par exemple sur des émulateurs de type VG5000 ou ALIS32, ALIS90, dont on parlait. Si on veut l'émuler, donc ça sera possible, bien sûr, mais ça apportera pas grand-chose finalement par rapport à un émulateur d'autres machines CPM.
Et vous-même, donc vous développez sur cette machine, vous utilisez différents langages, il y a le Turbo Pascal 3, il y a du Modula aussi donc, que vous utilisez.
Oui, c'est le côté un peu archéologique cette fois-ci, logiciel.
Enfin, là, c'est la spéculative fiction sur le niveau logiciel, quoi, pour le coup.
Non, ça a vraiment existé. Ça a existé très peu de temps. Donc, c'était vendu. Donc, ce compilateur, c'est Borland qui avait revendu les droits à une petite boîte. Et donc, ce compilateur Modula 2, ça a existé.
Oui, ça tournait sur Amstrad CPC et plein de bécanes de l'époque, oui. Je les ai vus tourner. J'ai bricolé.
Et quand j'ai contacté un des développeurs de ce compilateur Modula 2, il était vraiment très content et étonné aussi de voir qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça encore aujourd'hui, oui.
D'ailleurs, le type en question... n'est pas un inconnu actuellement.
Ah oui, le type en question n'est pas un inconnu, puisque c'est l'inventeur du langage Scala, le langage informatique fonctionnel.
Ouais, donc sur une base de JVM et tout le reste. Est-ce que vous avez eu un projet logiciel un peu plus abouti, outre les démographiques et sons que... Ou finalement, c'est non, ça ne vous intéresse pas parce que ça n'a aucun intérêt.
Ah ben là, en ce moment, en fait, on parlait de rétrofuturisme un petit peu. Hein, c'est un peu ce que je fais, oui, puisque j'essaye de réactualiser un petit peu cette machine en essayant de lui faire faire des choses aujourd'hui qu'elle n'aurait pas fait à l'époque. Donc la première étape, bon, c'est de corriger un certain nombre de bugs qui existent dans la ROM, parce que la ROM n'est pas aboutie. Donc on en trouve pas mal, et d'essayer de la rendre la plus fonctionnelle quoi, possible. Donc là par exemple, bah, j'ai changé le codage donc, des caractères qui est utilisé, qui était simplement de l'ASCII, pour mettre du latin 1.
Et puis, pour avoir les lettres accentuées.
Pour avoir les lettres accentuées, entre autres. Et puis, je vais passer à l'UTF-8, des choses comme ça. Ouais.
Ah oui, l'Unicode, carrément. Ah bah, il faut de la place en mémoire. Pour,
ah bah, on n'est pas obligé d'avoir tous les glyphes non plus. Hein.
Et puis, il faut manipuler l'interface graphique. Donc, et puis, il y avait de la RAM quand même. Pour l'époque, il y avait 256K quand même. Pour une machine 8 bits, c'était énorme quoi, pour ce type de bécane.
Oui, 256K. Mmh. Sur la carte, en tout cas, qu'on m'a envoyée, il y a même donc, la place pour en rajouter 256 de plus. Donc ça fait 512, c'est beaucoup. Mais dans le même temps, en fait, la version de CPM qui est dessus ne gère que 64K. Alors, heureusement, donc...
Ouais, on peut tenter de faire du multitâche avec en soi pour les banques.
Voilà, ils utilisent le reste de la mémoire pour faire un RAM disque. Ce qui est pas mal, ça permet quand même d'accélérer bien les choses.
Ah oui, quand même, ouais. Et puis, je suppose que si maintenant on y met de la mémoire flash pour accéder à la machine, quand même, elle doit sentir un petit peu le caoutchouc qui fume, quoi.
Ah ben, aujourd'hui, ben, on peut rajouter effectivement des interfaces et puis mettre une compact flash, par exemple, pour servir du disque dur, des choses comme ça. Ouais.
Est-ce que vous avez évalué son coût de production s'il avait été produit à l'époque? Et est-ce que ça aurait été une machine viable commercialement, même si la concurrence était bien au-dessus techniquement?
Le coût de production, je ne l'ai pas évalué, mais je dirais qu'à l'époque, facilement, ça aurait valu 600 livres sterling.
Ouais, donc, ça faisait dans les 6000 francs, à peu près.
Quoi. Ça aurait fait dans les 6000 francs. Bon, il y avait quand même deux lecteurs de disquettes. Hein,
ouais, ça fait 900 euros. Hein.
Et à mon avis, elle aurait eu donc, aucun succès.
Soyons honnêtes.
Soyons honnêtes.
On parlait justement de vos compétences professionnelles tout à l'heure en introduction, donc puisque vous travaillez sur les performances des AFDX, donc ces réseaux embarqués qu'on trouve dans les avions. Est-ce que c'est une expérience restaurer ce genre de ça se fait plus qui vous intéresse aussi, qui vous amène quelque chose professionnellement, ou finalement pas du tout? Je suis en dehors du bureau, je me détends complètement.
Alors, pour ce cas précis, pour la recherche sur les réseaux embarqués, pas du tout. Par contre, ma femme me dit toujours à la maison, on ne sait jamais quand tu joues ou quand tu travailles. Alors c'est vrai que...
Il n'y a même pas de différence entre les bécanes, c'est...
C'est jamais déterminé si je joue ou si je m'amuse, en fait, pour moi, ou si je fais quelque chose pour le boulot. Et c'est vrai que très souvent, en fait, on a l'impression que je m'amuse, et puis, parce que je fais quelque chose pour moi, et puis un peu plus tard, ben, je vais le réutiliser dans le boulot.
Donc il y a quand même quelque chose, il y a un peu quelque chose que vous apprenez derrière, quoi.
Oui, alors bon, c'est particulier peut-être à mon métier aussi d'enseignant-chercheur. C'est des projets, par exemple, pour les étudiants. Et donc, on essaye de mettre un peu de fun dans les projets. Et donc, effectivement, quand c'est fun pour moi, ça peut être fun pour eux, c'est ce qu'on se dit.
Fabrice Frances, merci beaucoup d'être participé à ce CPU. On vous souhaite en tout cas de encore beaucoup vous amuser avec cette machine et vous la présenter de temps à autre. Donc, il y a peut-être un site, on mettra toutes les références justement sur notre site cpu.pm pour trouver ces informations-là.
Merci à vous.